9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission garantie sans aucune trace de coronavirus, mais avec de l'empathie, de la bienveillance, le goût des autres. C'est ce que prône le psychologue Christophe André dans son dernier livre. Créer des liens, cultiver l'interdépendance pour vivre plus heureux. Christophe André sera notre premier invité. Au générique également, l'avocate Marie Dosé qui pense que les juges et les politiques font fausse route face aux djihadistes et que nos peurs, nos préjugés fabriquent du terrorisme. L'historien Benjamin Stora qui raconte l'Algérie après Bouteflika, rien moins qu'une révolution. Et l'accordéoniste Richard Galliano, 50 ans de carrière, c'est l'un de nos plus grands instrumentistes. Il a exploré tous les genres, il crée un oratorio dans quelques jours à la scène musicale.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Christophe André.
Bonjour.
Avec la psychologue Rebecca Chandland, vous publiez un nouvel essai chez Odile Jacob qui sonne comme un traité de savoir-vivre, de savoir bien vivre dans cette société de plus en plus fragmentée, individualisée, solitaire. Ces liens qui font vivre, éloge de l'interdépendance. Vous n'avez jamais connu de solitaire heureux et heureux de sa solitude ?
Si, parfois on peut être heureux de sa solitude lorsqu'on l'a choisie et lorsque c'est une solitude transitoire. Mais vous savez, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il y a un auteur américain du 19e, Ambrose Bierce, qui avait fait un petit dictionnaire et pour définir le mot seul, il disait « en mauvaise compagnie ». Quand on est seul, on est en mauvaise compagnie. En réalité, ce n'est pas tant la solitude choisie qu'il faut critiquer, c'est l'égoïsme, c'est la solitude de ses intérêts, de la poursuite de ses idéaux. Et notre société est malade d'individualisme, elle est malade d'égoïsme, elle est malade de narcissisme, alors qu'elle ne vit que par l'interdépendance. L'interdépendance, c'est une évidence. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Ce que nous mangeons, ce que nous portons, ce que nous lisons, ce que nous entendons, tout ce que nous vivons, nous le devons pour tout ou partie à d'autres personnes. Et ça, il ne faut jamais l'oublier.
Mais si on l'a oublié, c'est aussi qu'on a beaucoup valorisé l'affirmation de soi-même, le développement personnel, l'indépendance, le culte du moi, en quelque sorte. Vous pensez que le plus important, l'essentiel dans la vie, c'est le goût des autres ?
Oui, c'est le lien avec les autres. Alors vous savez, cette valorisation dont vous parlez, elle a été nécessaire à un moment donné. C'est vrai que pendant très longtemps, dans les sociétés occidentales, mais c'était le cas partout, l'individu était écrabouillé par ses groupes d'appartenance. On devait se soumettre à sa famille, à son employeur, à son pays, et ça n'était pas forcément une bonne chose non plus. Donc tout ce travail qui a été fait par la psychologie pour pousser les gens à s'affirmer, mais pas que par la psychologie évidemment, il était nécessaire.
Il y a eu un mouvement d'émancipation, ouais, des religions, des traditions, voilà, des coutumes.
Et c'était très bien. Par contre, on a le sentiment qu'on a poussé le curseur un petit peu trop loin. On a basculé aujourd'hui vers une époque où il y a trop de narcissisme, trop d'égoïsme, trop d'individualisme, que cela concerne les individus, moi, je, ou les nations. Regardez la vision de l'Amérique que promeut quelqu'un comme Donald Trump. C'est l'Amérique d'abord et puis le reste, on s'en fout. Ça, c'est dramatique par tout un tas d'aspects. Et au fond, c'est un peu ça, cet éloge de l'interdépendance. Et d'ailleurs, on a mis sur la couverture de notre livre aussi un proverbe que j'aime beaucoup.
Ensemble.
Alors, voilà.
Ensemble, on va plus loin.
Tout seul, oui, mais ça commence par « tout seul, on va plus vite ». Mais ensemble, on va plus loin. C'est-à-dire, parfois, les autres nous encombrent. Parfois, les autres nous dérangent, ils nous pèsent. Mais il ne faut jamais oublier que finalement, se débarrasser des autres parce qu'on a l'impression qu'à certains moments, on ira plus vite, c'est une grave erreur parce que dès que les difficultés arriveront, on aura besoin d'eux.
Alors, quel type de lien, Christophe André, dans interdépendance, il y a dépendance qui n'est en soi, qui n'est pas une valeur très positive, pas seulement pour les personnes âgées ou les grabataires. Dépendre de quelqu'un, on se dit que c'est être dans un sentiment d'infériorité.
Oui,
c'est une position d'infériorité.
Dépendre de quelqu'un, c'est reconnaître qu'il y a des choses que je ne peux pas faire seul, qu'il y a des idéaux, des objectifs que je ne peux pas atteindre seul. Et alors, est-ce qu'on peut avoir l'orgueil, l'illusion de pouvoir tout atteindre et tout faire tout seul. C'est une absurdité. Donc, l'idée de l'interdépendance, c'est de reconnaître nos dépendances croisées. Hein, la définition de l'interdépendance, c'est des liens de dépendance mutuelle bénéfiques qui vont m'apporter des choses. Je suis dépendant de mes amis parce que quand je vais avoir besoin de déménager, ils vont me prêter un coup de main. Mais ils sont dépendants de moi parce que je leur rendrai d'autres services. Mmh. Et c'est au fond habiter joyeusement ces liens-là au lieu de les habiter avec angoisse. Vous savez, notre société, comme vous le disiez, considère que la dépendance, c'est presque un gros mot et que c'est l'idéal, c'est l'interdépendance absolue. Un, c'est un mensonge, ça n'existe pas, l'indépendance absolue, pardon. Et deux, pourquoi serais-je inquiet, insécurisé, parce que je ne suis pas capable de faire quelque chose tout seul? Il y a des choses dans lesquelles j'excelle et il y a des choses dans lesquelles je suis moins bon. Ces choses-là, j'ai besoin des autres pour les réaliser et je peux m'en réjouir. C'est chouette de savoir que les autres sont là pour m'aider.
Christophe André, on marque une courte pause. À tout de suite.
Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen.
Avec le psychologue Christophe André, auteur des liens qui font vivre, des liens qui peuvent être toxiques. On peut subir de mauvaises influences. Christophe André, comment distinguer les bons liens des mauvais liens ?
Eh bien, nous croiserons régulièrement et nous croisons régulièrement les deux dans notre vie. Ce n'est pas toujours facile de les distinguer, on ne les distingue pas toujours au début, mais on sait qu'il y a un bon vaccin, un bon moyen de protection, c'est de multiplier ces liens. Vous savez, ce qu'on appelle le lien social, c'est quelque chose qu'on a très largement étudié en psychologie et on sait que ce lien social peut nous apporter tout un tas de choses, mais aussi doit se construire à tout un tas de niveaux. Là où je suis en danger par rapport au lien social, c'est quand je fais de la monoculture. C'est comme quelqu'un qui mangerait toujours la même sorte d'aliments ou une agriculture qui ne cultiverait qu'une sorte de plante. Eh bien, le jour où un parasite arrive et s'installe dans sa plante, il est cuit.
Donc, c'est les relations quasi exclusives ou quasi exclusives.
Voilà. Et donc, on sait par exemple qu'il y a trois cercles dans nos liens sociaux. Il y a les relations très intimes, les gens qu'on voit quasi quotidiennement ou avec qui on a des relations d'interdépendance très fortes. Il y a un second cercle qui est un cercle de gens soit qu'on voit quotidiennement, mais avec qui les liens sont moins forts, des collègues de travail, des voisins, etc. Soit qu'on croise comme ça, des commerçants, bon, avec qui les relations ont l'air plus superficielles. Puis un troisième cercle, au fond, les inconnus à qui on bavarde dans la rue, etc. Nous avons besoin des trois.
Au passage, vous faites remarquer que les liens qui laissent un souvenir négatif laissent plus de traces dans nos mémoires que ceux qui laissent un souvenir positif. Pourquoi ?
Ah ça, c'est un des grands constats de la psychologie positive, c'est que malheureusement, notre cerveau est équipé pour la survie, c'est-à-dire que nous sommes plus profondément marqués par les choses qui nous menacent que par les choses qui nous réjouissent, parce que c'est l'héritage du monde animal. Vous savez, si vous êtes un petit animal fragile dans la jungle, vous avez intérêt à ne pas rater le prédateur, ou à ne pas rater le danger parce que vous n'aurez pas une deuxième occasion. Si vous ne faites pas attention au prédateur ou si vous ne vous souvenez pas du danger dans lequel vous avez été, eh bien, l'histoire ne vous repassera pas deux fois le plat, vous allez disparaître. Par contre, vous pouvez rater l'occasion de vous réjouir, de manger, de boire, d'avoir un rapport sexuel. Si vous êtes une petite bestiole, il y aura toujours d'autres occasions qui arriveront. Et notre cerveau marche comme ça. Notre cerveau, il nous apprend à surévaluer le risque, à nous focaliser sur ce qui pourrait nous mettre en danger et à faire passer un peu au second plan ce qui, au fond, représente des sources de réjouissance ou de bonheur. C'est comme ça, c'est la structuration biologique. Donc, ça veut dire que il faut continuer de faire attention, mais il faut équilibrer cette chose-là. Sinon, nous vivons comme des anxieux. La vie d'un anxieux, c'est quoi ? C'est je passe mon existence à sauter de problème en problème. Et je ne me donne jamais le temps de me réjouir, de savourer, de me poser.
Quid de la dépendance au sein d'un couple ? La codépendance. Sans lui ou sans elle, je ne suis rien. Ouais. C'est toxique ou pas ?
Ça dépend de la manière dont on l'habite. Alors la codépendance, la pure codépendance toxique, c'est je suis dépendant de ce salaud ou je suis dépendant de cette sale personne et j'en souffre, mais je ne peux pas faire autrement. Ouais. C'est-à-dire, on est dépendant l'un de l'autre, mais on le regrette, on en souffre et il y a des sentiments hostiles. L'interdépendance, c'est se dire, je dépends follement de gens que j'aime. Je dépends follement de mon conjoint, je dépends follement de mes enfants. S'ils m'étaient retirés, ma vie s'effondrerait. Et pourtant, c'est le plus beau cadeau que la vie ait pu me faire. Je suis dans une interdépendance positive parce que j'ai conscience de mes fragilités. Je vois bien qui peut les compenser et je m'en réjouis.
Il y a une part importante de votre livre qui porte sur la petite enfance. La dépendance positive, Christophe André, ça s'apprend dès le plus jeune âge par le comportement des parents.
Oui, on a beaucoup insisté sur ça parce qu'il y a des illusions qui polluent encore aujourd'hui notre manière d'éduquer les enfants. Finalement, si mon idéal c'est que mes enfants puissent être un jour indépendants dans certaines circonstances, on a vu qu'on n'était jamais indépendant à 100%, mais il y a des moments où il faut prendre son indépendance, l'affirmer, s'engager. Bon, eh bien, je vais devoir d'abord sécuriser mon enfant par ce qu'on appelle la psychologie de l'attachement. Je ne dois pas avoir peur de le prendre souvent dans les bras quand il pleure. Je ne dois pas avoir peur de le rassurer, de le consoler. Je ne dois pas avoir l'obsession trop tôt de le rendre autonome et indépendant de moi. Et c'est vrai aussi pour l'éducation. Trop longtemps, les enseignants ont essayé de ne pas mélanger l'éducatif et l'affectif. Ils avaient l'impression que si les élèves s'attachaient trop à eux, s'ils étaient trop affectueux avec leurs élèves...
Donc il fallait garder de la distance. Hein.
Voilà, ça ne leur rendait pas service, il fallait être distant. On s'aperçoit que c'est une erreur. Et même sur un plan médical, les grands prématurés, les petits bébés qui naissent avec un poids de naissance trop faible, c'est la fusion avec les parents, c'est le pot à pot qui va leur augmenter leur chance de survie de 40% par rapport à la couveuse. Donc vous voyez, à certains moments, on a besoin d'une dépendance absolue si on veut avoir ensuite confiance dans nos capacités d'autonomie, d'indépendance, une fois de plus, dans certaines circonstances.
En résumé, Christophe André, dans votre conclusion, vous dites qu'il faut de la bienveillance, de l'altruisme, ne pas hésiter à demander de l'aide, à proposer de l'aide.
Oui, c'est souvent on a l'impression que si on demande de l'aide, c'est qu'on est inférieur, c'est qu'on est incompétent. Et du coup, on se met dans des situations invraisemblables. Moi, je me souviens de mon papa qui était... quand on se baladait dans des quartiers, dans des villes ou des pays qu'il ne connaissait pas, il ne voulait jamais demander son chemin dans
la
rue.
Oui, ça arrive, ça arrive.
Et il avait l'impression qu'il s'infériorisait, qu'il fallait qu'on trouve tout seul, alors que c'est tellement plus simple de faire ça. Donc, n'ayons pas peur de demander de l'aide, vérifions quand même qu'on ne passe pas notre temps à nous accrocher aux autres, et puis surtout, n'ayons pas peur d'en donner. Et la vie en société sera beaucoup plus belle et nous serons beaucoup plus heureux.
Merci beaucoup. Christophe André avec Rebecca Shankland, ces liens qui nous font vivre, éloge de l'interdépendance. Chez Odile Jacob, merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, le rapatriement des djihadistes et de leurs enfants, la valse hésitation du gouvernement et la justice antiterroriste qui sanctionne à l'aveugle au risque de fabriquer du terrorisme. C'est ce qu'affirme l'avocate Marie Dosé, notre prochaine invitée.
Europe 1. C'est arrivé demain, c'est jusqu'à 10h avec vous Patrick Cohen.
Bonjour Marie Dosé.
Bonjour.
Il y a 15 jours, la garde des Sceaux Nicole Belloulet envisageait le rapatriement des djihadistes retenus au Kurdistan syrien. Je ne vois pas d'autres hypothèses, disait-elle, à libération. On ne peut pas prendre le risque d'une dispersion dans la nature. Qu'est-ce qui se passe depuis ?
Oh, depuis, il y a une espèce de rétropédalage, mais nous y sommes habitués, c'est-à-dire que Jean-Yves Le Drian a pris la main, répond à sa place d'ailleurs... devant l'Assemblée nationale, mais ce que dit Nicole Belloubet, c'est ce qu'elle a dit il y a un an, c'est ce qu'Édouard Philippe a dit il y a un an, en janvier 2019, en indiquant qu'il fallait absolument rapatrier tout le monde au risque de les voir se disperser. Donc il y a une cohérence, il y a juste un courage politique qui manque.
Ouais. Oui, vous parlez du courage, vous rappelez le courage dans votre livre de François Mitterrand qui avait bravé l'opinion dominante sur la peine de mort à un mois du scrutin de 81, parce que les Français sont hostiles à ce rapatriement quand on les interroge par sondage. Mais c'est une question à la fois quoi, humanitaire et sécuritaire à vos yeux ?
Impératif humanitaire et sécuritaire. Humanitaire parce que des enfants sont en train de périr. Dans le seul camp d'Alol, 371 enfants sont décédés en 2019. C'est le Croissant Rouge kurde qui nous a donné ce chiffre la semaine dernière. Et sécuritaire parce que, évidemment, Daesh les attend. Les cellules dormantes de Daesh qui ne dorment absolument pas, plusieurs centaines d'attentats revendiqués dans le nord-est syrien en 2019 aussi, donc les attendent pour les récupérer, ou alors, en les laissant là-bas, on prend le risque qu'ils deviennent une monnaie d'échange entre les mains de Bachar el-Assad. Donc de toute façon, et je cite Nicole Belloubet en janvier 2019, nous devons faire le choix qui est celui de la préférence du contrôle et donc du rapatriement.
Ouais.
Sauf que la mise en œuvre de ce choix ne se fait pas parce qu'on a peur de l'opinion publique et qu'on n'est pas courageux politiquement.
Ça vaut à la fois pour les enfants et pour leurs parents. Il y a environ 300 enfants français. Ces enfants entraîneraient leurs parents dans l'opération de rapatriement, à vos yeux ?
Mais de toute façon, on ne peut pas séparer ces enfants de leur mère. C'est absolument impossible. Il y a l'intérêt supérieur de l'enfant qui fait que ça n'est pas possible. Imaginez un enfant qui est rapatrié sans sa mère et qui va, tous les matins à l'école, en sachant sa mère en train de périr là où lui-même était en train de périr avec elle, c'est-à-dire sous une tente et dans la gadoue, avec absolument rien. Il sait qu'elle a faim, il sait qu'elle a froid, et il sait combien elle souffre, puisqu'il a souffert avec elle. Comment voulez-vous que cet enfant d'abord supporte le pays dans lequel il est, et puis tout simplement parvienne à s'insérer? Ça n'est pas possible. Et ensuite, je le répète, ces femmes ne sont judiciarisées qu'en France. Elles sont dans une zone où elles ne peuvent pas être jugées, où elles ne seront jamais jugées. L'Irak a bien expliqué à juste titre qu'il n'était pas une poubelle à djihadistes, en réponse à Jean-Yves Le Drian qui s'est rué vers l'Irak au moment de l'offensive turque pour essayer de négocier.
Qui voulait que la justice irakienne prenne la main. Oui.
Exactement. Donc voilà, stop. Il n'y a pas d'autre solution. Ces rapatriements sont inéluctables et c'est effectivement un impératif sécuritaire et humanitaire.
Alors tout cela, Marie Dauzet, c'est une partie de votre livre « Les victoires de Daesh à paraître chez Plomb quand nos peurs fabriquent du terrorisme ». L'autre fabrique que vous dénoncez, c'est le système judiciaire qui, face au phénomène djihadiste, ne cherche plus à comprendre et se contente de sanctionner et d'incarcérer, y compris des individus que vous pensez récupérables. Vous citez des exemples de vos clients partis en Syrie, mais vite rentrés sans basculer dans l'action violente. Mais écrivez-vous, il est devenu impossible de faire figure de repenti dans un cabinet d'instruction antiterroriste. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que les magistrats ont peur de la taqiya.
En fait, c'est la dissimulation.
C'est ça. Les magistrats ont peur que celui qui dit « mais attendez, je suis parti 3 semaines et dès que je suis rentré, j'ai compris et j'ai voulu fuir. » Et d'ailleurs, je vous le prouve parce que pendant 3 années en France, avant même que vous sachiez que j'étais partie, je me suis parfaitement insérée, je distribuais des tracts dénonçant les attentats de Charlie Hebdo, et ça je parle de Rachid dans mon livre. Mais même cette preuve-là ne leur suffit pas. Les magistrats ont peur. Et on peut les comprendre. On peut les comprendre.
Principe
Ils ont
de
peur
précaution.
De se tromper. Voilà, le principe de précaution. Sauf qu'on ne peut pas juger avec le principe de précaution ou le risque zéro en tête. Pourquoi ? Parce qu'à force, on va assimiler ces personnes qui ne sont pas des ennemis à des ennemis, et qu'on va leur assigner cette place de l'ennemi, et qu'ils finiront nécessairement par le devenir. Si vous dites judiciairement à quelqu'un « on ne prend pas de risque avec toi », et finalement, on te met à la place de tous ceux qui sont éminemment dangereux et dont on connaît la dangerosité, quel avenir a-t-il ?
Ouais.
En lui, très sincèrement, la France le considère comme un ennemi, quelle autre joie ai-je de devenir autre chose qu'un ennemi.
Vous pensez que
c'est
le sentiment d'injustice nourrit forcément la colère et peut-être le terrorisme ? Ce n'est pas le cas du premier exemple que vous citez de votre client Rachid.
Non. Mais le sentiment d'injustice nourrit d'abord la défiance. La défiance envers l'institution. Et si on se défie d'une institution, si on a le sentiment, mais qui n'est pas un sentiment, qui est vraiment une authenticité, une vérité, parce que moi je la vis au quotidien, que la justice se trompe, qu'elle maltraite, alors même qu'au fond d'elle, elle sait très bien qu'il y a très peu de risques, eh bien on s'en défiera. Se défier de l'institution judiciaire, c'est se défier d'un pays. C'est se défier d'une institution tout court, et donc se défier d'un système. Et on sait très bien comment le radicalisme naît, et notamment dans les prisons françaises, il naît d'abord d'une rupture avec l'institution. Donc voilà, c'est d'abord le traitement judiciaire, quand il est outrancier, quand il n'est pas individualisé, qui peut nourrir une défiance, et donc effectivement du terrorisme dans le sens large du terme.
Et vous avez fait savoir ça. Vous avez essayé de le dire, vous avez essayé
mais
de parler
sûr.
À des...
mais je le plaide,
oui.
Je le plaide régulièrement, et je ne dis pas qu'aucun magistrat ne l'entend, certains l'entendent. Et peut-être, je le pense, en tout cas je l'espère, de plus en plus. Parce que vous savez, je ne suis pas la seule à le penser. Quelqu'un comme Marc Sejman, qui était ex-agent de la CIA, qui était expert psychiatre dans les années 2001-2005 aux États-Unis s'agissant des terroristes, explique que la seule façon de combattre efficacement le terrorisme, c'est justement l'équité totale en matière judiciaire. L'équité totale. Sinon, on fabrique de la défiance.
Vous avez un rôle et un métier pas facile, Marie Dauzet, en choisissant avec ses clients, avec cette cause. Au début de votre livre, vous expliquez n'avoir aucune sympathie pour ces individus. Vous n'avez eu aucun contact avec le monde musulman avant de devenir avocate. Vous avez grandi en Lorraine. Mais à la toute fin de votre livre, vous écrivez que l'adolescente que vous étiez aurait pu partir en Syrie en quelques semaines. Vraiment ?
J'ai écrit cela parce que je sais qu'au moment de l'adolescence, on est capable du pire. J'ai écrit cela parce que chaque personne a en soi une caricature de ces personnes qui sont parties. Et elle les imagine endoctrinées, terriblement dangereuses, sous l'emprise de Daesh. Mais ce n'est pas si simple. Il y a plein de mineurs qui sont partis à 15-16 ans pour une rupture amoureuse, parce qu'elles se sont enfermées en elles-mêmes, parce qu'elles ont été attirées par Daesh. Et ce qu'on oublie, c'est que Daesh est d'abord une secte. Et que oui, n'importe quel adolescent, à un moment donné, peut tomber sous l'emprise d'une secte. J'ai écrit cela parce que j'étais une gamine enflammée qui supportait pas l'injustice et qui était éminemment sensible et donc influençable à 14, 15, 16 ans. Et que je sais, je connais ce que je défends et certains de leurs mots résonnent en moi et je me dis, mais comme beaucoup de parents devraient se le dire, ça aurait pu aussi nous concerner, tous les uns après les autres. On n'est jamais à l'abri de cela. Donc on est en train de fabriquer des figures de l'ennemi pour essayer de les éloigner de nous. Mais c'est notre histoire. Ça nous est arrivé ici, dans des familles qui sont françaises, avec des enfants qui sont nés en France, qui ont été dans les écoles de la République et qui, à un moment donné, ont été embrigadés. Je n'aurais pas été à l'abri de cela. Je n'ai pas la prétention de croire que non, pas moi.
Les victoires de Daesh, quand nos peurs fabriquent du terrorisme chez Plomb. Merci beaucoup Marie Dosé d'être venue nous en parler.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, Benjamin Stora, révolution en cours en Algérie et la mémoire de la guerre d'Algérie.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve Patrick Cohen avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Bonjour Benjamin Stora.
Bonjour.
Voilà 40 ans que vous travaillez sur l'Algérie, pays où vous êtes né, que vous avez quitté en 62. Mais l'historien que vous êtes n'a pas voulu attendre d'avoir le recul pour écrire sur le mouvement né il y a un an, une vague pacifique de contestation qui a chassé le président Bouteflika. Un mouvement que vous pensez historique et que vous qualifiez de révolution, même si elle est loin d'être achevée. Pourquoi n'avoir pas attendu que la poussière retombe ?
Parce que c'est un défi d'écriture d'abord, d'écrire l'histoire d'un événement extraordinaire alors qu'il est en train de s'accomplir sous nos yeux, ce que je n'avais encore jamais fait dans un travail historique. Mais je connaissais tellement bien l'histoire algérienne intérieure, notamment du nationalisme algérien, et je connaissais beaucoup des acteurs qui naturellement défilaient chaque semaine en Algérie. Et j'étais moi-même tellement mêlé personnellement à cette histoire, notamment depuis les années 80-90, que dans le fond, je ne pouvais pas rester passif et simple spectateur sur le bord du trottoir en regardant passer l'histoire. Il me fallait aussi essayer d'intégrer cette histoire dans une histoire générale.
Vous écrivez que vous avez tout de suite perçu que c'était l'une des phases les plus marquantes de l'Algérie indépendante. Et dans les premières images, vous voyez le pays qui renoue avec la joie de l'été 62, c'est-à-dire juste après l'indépendance.
Ah oui, parce que il y a eu d'entrée de jeu, parmi les manifestants et dans toutes ces grandes marches gigantesques à travers toute l'Algérie, la volonté de se réapproprier une histoire confisquée. Ouais. Et c'est ça qui m'avait frappé.
Ça, c'est ce qui fascine l'historien, ça, évidemment.
Voilà, lorsque vous voyez un événement extraordinaire où les gens s'emparent de l'histoire en tant que telle, comment un historien pourrait-il ne pas s'intéresser à cela ?
Oui.
C'est extraordinaire de brandir des portraits, de chanter des mots d'ordre, des slogans, etc., qui font référence à une histoire sur laquelle je travaille depuis très longtemps.
Alors précisément, ce que vous appelez les noms propres ou les noms oubliés, Messaliadj, Ferhat Abbas, qui sont,
Ramdan,
qui sont parmi les pères du nationalisme algérien, mais qui ont été effacés de la photo par le FLN.
Oui, c'est-à-dire que ce qui m'avait frappé dans cet incroyable mouvement né il y a tout juste un an, donc le 22 février, c'était cette volonté de se réapproprier des figures qui avaient été écartées ou minimisées ou non valorisées. Il y a à la fois, à travers les titres d'ouvrages ou les mots d'ordre politique très anciens, bien une volonté de comprendre ce qui s'était passé avant 1954, c'est-à-dire au moment où cette fameuse insurrection contre la France avait débuté. C'est-à-dire de comprendre la pluralité du nationalisme algérien qui, dans les récits officiels, avait été réduit à une seule histoire, qui était l'histoire du FLN. Et dans le fond, les jeunes générations algériennes voulaient comprendre et se situer dans une généalogie qui soit beaucoup plus complexe, beaucoup plus plurielle.
Alors maintenant, la guerre d'indépendance contre la France, comme légitimation principale de la nation algérienne et du régime en place, c'est fini ?
Ah non, c'est pas fini, parce que la question de la guerre d'indépendance pour les Algériens reste un marqueur identitaire extrêmement puissant.
Encore aujourd'hui. Pour des générations, deuxième ou la troisième génération après. Hein.
C'est le nationalisme, tout simplement, parce que la nation algérienne, elle s'est en grande partie définie par la séparation avec la France. Donc c'est un moment fondateur, le moment fondateur de l'État-nation, donc il est très difficile effectivement de considérer que cette séquence d'histoire va disparaître, s'affaiblir ou s'atténuer. Et puis aussi, disons que c'est une révolution, je veux dire, quelque part, hein, cette guerre, un peu comme en France, la Révolution française, bon, ne s'efface pas vraiment. Elle reste toujours au centre des querelles, des polémiques.
Comme une référence, bien sûr.
Comme une référence centrale, c'est un marqueur historique. La guerre d'Algérie, pour les Algériens, reste encore ce marqueur. Mais ils se méfient des récits falsifiés.
Alors, dans ce livre d'histoire, Benjamin Stora, d'histoire immédiate, forcément, il n'y a pas la fin de l'histoire. Et on peut vous dire, mais quelle révolution ? Benjamin Stora nous parle de révolution, mais laquelle ? Puisque l'armée, on a changé de président, évidemment, mais quelle révolution ? Puisque l'armée reste l'épine dorsale du système.
Une révolution, pour moi, dans la mesure où il y a une direction qui a été prise. Un seuil qui a été franchi. C'est ça qui est fondamental dans cette histoire, c'est-à-dire la liberté de parole et la peur qui tombe. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Vous savez, ça fait très longtemps que je vais en Algérie, que je rencontre beaucoup, beaucoup d'Algériens avec qui j'ai beaucoup travaillé, beaucoup d'anciens, beaucoup de militants, nationalistes, etc. Et ce qui est fondamental, c'est la libération de la parole publique. Et ce sera très difficile de revenir là-dessus, à travers, disons, la question des minorités, le rapport... à la religion, le statut des femmes, la pluralité politique, enfin toutes ces grandes questions, bien sûr le rapport avec le Maroc, la question du terrorisme, les frontières, la question des frontières pour l'Algérie, ce qui se passe au Sahel, parce que l'Algérie ne se réduit pas à la question simplement des grandes villes. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est un pays gigantesque et qui a des frontières avec le Mali, avec le Niger, avec la Libye. Donc c'est aussi ça. Donc toutes ces questions-là, dans le fond, qui sont débattues aujourd'hui dans la société algérienne, elles ne pourront pas s'effacer, même si on a le sentiment, effectivement, que des hommes qui ont déjà exercé le pouvoir restent encore en place. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler, entre guillemets, d'un échec, mais d'une situation nouvelle, dans laquelle il peut y avoir des reculs, bien sûr, dans laquelle il peut y avoir des tentations autoritaires, évidemment, mais dans lesquels l'Algérie a franchi un pas en avant considérable.
Avec la France, la relation est toujours passionnelle. Emmanuel Macron vient d'en parler avec la volonté de solder le passé. Qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Il y a des petits pas qui ont été accomplis, mais il est évident que ce qu'attendent les Algériens, comme une partie de la jeunesse en France, c'est peut-être d'avoir une vision plus globale. Ce que tente peut-être de faire Emmanuel Macron dans ses dernières déclarations, lorsqu'il dit qu'il faut regarder en face ce fait-là de manière plus globale, c'est-à-dire la question coloniale, pour aller vite. Parce que cette question coloniale, elle continue de hanter les jeunes générations d'aujourd'hui, pas simplement en France, dans les immigrations, mais dans toute l'Afrique aujourd'hui. Il faut voir ce qui se passe au Mali, en Côte d'Ivoire. Et il faut regarder en face cette histoire pour que la France, à nouveau, puisse faire entendre sa voix. Et j'allais pas dire en se débarrassant, mais en faisant en sorte que cette histoire ne nous encombre pas toujours. Et qu'elle ne soit pas toujours instrumentalisée et utilisée par des mondes identitaires. Mais il faut donc l'affronter, il faut donc la regarder en face.
Merci beaucoup Benjamin Stora. Retour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika. Ça paraît chez Bayard. Merci à vous.
Europe 1.
Il est l'un de nos grands instrumentistes, le maître de l'accordéon et du bandoneon. Richard Galliano crée un oratorio et rend hommage à Michel Legrand. A tout de suite.
Europe 1. Le dimanche, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée demain.
Bonjour Richard Galliano, soyez le bienvenu.
Bonjour Patrick, bonjour.
Mais par où commencer pour résumer vos 50 ans de carrière dans tous les genres musicaux ? Peut-être par cette composition qui, pendant des années, est entrée chaque vendredi soir chez des millions de foyers français. New York Tango, qui était le générique de la série PJ avec Bruno Volkovitch. C'est l'une de vos signatures, on vous en parle souvent.
Oui, souvent, beaucoup de gens me connaissent à travers ce morceau, avant tout. Et c'est un morceau qui a marqué parce que la série a duré une vingtaine d'années, oui. Je crois. Et, justement, le réalisateur m'avait dit qu'il avait, entre guillemets, vendu la série à la chaîne en faisant écouter simplement le générique.
Formidable.
Donc c'était, voilà.
Une autre de vos signatures, Richard Galliano, elle est liée à Claude Nougaro, que vous avez accompagné sur scène et sur plusieurs albums, et qui a mis ces mots-là sur l'une de vos musiques.
De l'air, de l'air, de l'air, comme un jeune marin en lassant la taille de la terre, bandon sur le bandoneon.
Bandon sur le bandoneon, quel plus bel hommage à l'un de vos instruments.
Ah oui, oui. Ça me fait penser, justement, Claude avait écrit une chanson pour Zizi Jeanmaire.
Oui.
Je bande au néon, elle n'a jamais voulu la chanter.
Il y a eu aussi pour Nougaro Vie, violence, devenue dans votre répertoire Tango pour Claude, ici en duo avec le grand Michel Portal. Michel Portal, Richard Galliano, en public, duo magique, virtuosité, précision, symbiose. Comment parvient-on à une telle harmonie, Richard Galliano ?
Avec Michel Portal, ça, vraiment, pendant de longues années, on a fait beaucoup de concerts et je sens vraiment se décider des choses. Il y avait une compréhension dans la musique, des choses spontanées comme ça. Ouais.
Il y a eu beaucoup de grandes rencontres dans votre parcours. Richard Galliano, Chet Baker, vous avez fait un disque avec lui. Astor Piazzolla, évidemment. Barbara pour Lily Passion. Reggiani, Aznavour, Alain Leprest. Mais ce qui est sidérant, c'est l'incroyable diversité musicale de votre parcours. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de musiciens de votre stature qui aient touché à la fois au jazz, au tango, à la bossa nova, à la chanson, à la musique de film, au classique. Qui d'autre peut se vanter d'avoir remporté deux victoires du jazz et une victoire de la musique classique?
Oui, je pense que je fais partie d'un peu une tribu. Michel Legrand était comme ça aussi, intéressé par la musique classique, le jazz, la musique brésilienne, la chanson. On est amoureux de la chanson. Et puis, la surprise de découvrir des nouveaux styles de musique ou des mélodies qu'on ne connaît pas et qui vous donnent le frisson et l'envie de les jouer, de les connaître, de... Voilà.
Le classique, donc, avec une série d'enregistrements pour la Deutsche Grammophon. Vous êtes le seul accordéoniste de cette prestigieuse écurie discographique. Ça n'allait pas de soi, hein, de mettre de l'accordéon sur Bach, Mozart. Je vais laisser les auditeurs juger de ce mariage entre les cordes et votre accordéon sur Vivaldi. Extrait de l'été dans les quatre saisons de Vivaldi, avec le bruit des touches, on entend le cliquetis, oui, de votre clavier d'accordéon.
Ça fait partie du son, hein, ça fait partie du son. Là, ça rajoute de l'attaque à la sonorité de l'accordéon. Et là, je joue vraiment la partition de violon solo. C'est difficile au violon, c'est très difficile à l'accordéon aussi.
J'imagine.
C'est de la très belle musique et à la fois un très bon exercice. Ça maintient la technique.
Parlez-nous de votre instrument, Richard Galliano, c'est toujours le même ?
Toujours le même, depuis les années 60, début des années 60, c'est ma grand-mère qui m'avait offert cet accordéon.
À quel âge ?
Oh, j'avais 12-13 ans, 13 ans par là, oui.
Mais c'est fragile un accordéon, il vieillit bien ?
Ah, il vieillit bien, oui. C'est assez costaud quand même, parce que c'est très mécanique, les claviers ont été refaits. Mais la musique, ce qu'on appelle la musique, c'est-à-dire l'âme, les lames à l'intérieur qui vibrent, sont d'origine. Et moi, je mets souvent le nez sous le capot, je, je, lorsqu'il y a une note qui se désaccorde, je l'accorde moi-même.
C'est vrai. Alors, vous l'accordez.
Il est nourri de défauts et il change de sonorité un peu tous les jours. Il est vivant.
Quel poids?
Et il pèse autour de 13 kilos, ce qui correspond, pour se faire une idée, à une quarantaine de violons, justement. Voilà, c'est le seul sport que je fasse, je vous rassure.
De Vivaldi à Galliano, c'est donc avec cet accordéon que vous allez créer dans quelques jours, à la scène musicale, un oratorio, Les Chemins Noirs. Oratorio, c'est un opéra sans décor et sans mise en scène. Hein,
Tout à fait, oui.
Deux musiciens, vous-même et l'excellent contrebassiste Bruno Rousselet, des chœurs, un récitant, l'écrivain René Frény, et une fresque, une histoire inspirée de son roman, son premier roman, Les Chemins Noirs.
Voilà, le livret a été écrit par Francine Couturier, qui a fait un travail magnifique, parce que toutes les mélodies que j'ai proposées, certaines mélodies ont 10 ans, 20 ans, elles attendaient ce moment-là, quoi. Alors, bien sûr, comme on sera simplement deux musiciens, on va jouer chaque fois de manière différente. Et on peut très bien improviser sur ces thèmes, sur ces harmonies-là. Là, on n'improvisera pas parce que la partie chœur est écrite d'une manière très précise, puisqu'il y aura 22 choristes. Donc voilà, il vaut mieux être très précis. Et puis, j'ai remarqué souvent, lorsqu'on entend des chœurs, on ne comprend pas très bien les paroles. Alors là, ça sera lisible parce que René Frény dira les textes d'abord comme ça, a cappella, et puis après ça sera repris chaque fois par le chœur. Mais voilà.
Un oratorio par Richard Galliano sera donc le 30 janvier la création en première mondiale des Chemins Noirs à l'auditorium de la scène musicale. J'ai envie de dire aux auditeurs, laissez-vous guider par Richard Galliano. Quelques mots encore sur votre dernier album. C'est un hommage à Michel Legrand, avec qui vous avez eu l'occasion de travailler et qui vous avait confié la direction des deux soirées d'hommage qu'il avait lui-même imaginées. Mmh. Alors les reprises de Michel Legrand, il y en a eu beaucoup. Oui. Pas toujours fameuse, mais je dis aux auditeurs, écoutez la sobriété, la délicatesse de cette reprise de la chanson de Maxence. Richard Galliano, la chanson de Maxence, des Demoiselles de Rochefort évidemment, et de Michel Legrand, il y a toujours chez vous le souci de jouer clair.
Oui, Michel adorait cette sonorité de mon accordéon. D'ailleurs, j'ai conservé des messages où il m'en parlait. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser uniquement ce son pour cet hommage à Michel. Et laisser beaucoup d'air. Ça, c'est un peu la leçon que j'ai gardée des enregistrements que j'ai faits de Mozart ou de Bach aussi. Lorsqu'il y a des adagios comme ça, très, très lents, dépouillés, avec un soliste à la flûte ou même piano.
Faire simple.
Oui.
Un clin d'œil pour finir. On a commencé par un générique télé. On va finir par celui de Faites Entrer l'Accusé, qui est aussi une BO de Michel Legrand. C'était messager de Lozay. Voilà, spéciale dédicace à Christophe Andelatte, Faites Entrer l'Accusé, Michel Legrand, sur votre disque hommage avec des cordes de Prague, hein, c'est
de
ça?
De Prague, oui, de Tchéquie, voilà.
Merci beaucoup Richard Galliano.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne route.
Voilà. Merci.
Europe 1.
Merci de nous avoir suivis et d'avoir suivi cette émission préparée par Marina Prezès, réalisée par Guillaume Vasseau et Valentine Gélin. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 9h.